Europe 1.
Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. Dans ce nouvel épisode, je vous parle d'un lieu étrange qui dénote à côté des lignes symétriques et majestueuses du parc du château de Versailles, le hameau de la Reine. Pourquoi Marie-Antoinette a-t-elle fait reconstituer ce village à l'aspect rustique dans le prolongement du parc du Petit Trianon? Par caprice? Pour son propre plaisir? Pas seulement. La Reine avait une autre idée en tête. Seconde partie, le hameau, refuge de la Reine. Quelques petites maisons de village disposées autour d'un lac, cela semble facile à réaliser. Il n'en est rien. Le lac doit être créé de toutes pièces et en réalité, il faudra inventer un autre jardin qui exigera des travaux considérables de 1783 à l'été 1785. On va l'appeler le nouveau jardin. Celui-ci, dans le prolongement du précédent, ne sera pas entouré de murs car les nécessités de perspective qui ne doivent rencontrer aucun obstacle interdisent de clôturer le jardin. On doit pouvoir apercevoir au loin le vieux clocher du village de Saint-Antoine-du-Buisson car il n'y aura pas d'église au hameau. Ce n'est pas nécessaire, il y en a une au Petit Trianon et ni la reine ni aucun membre de la famille royale ni aucun de leurs invités ne dormiront jamais au hameau. On viendra simplement s'y délasser pour la journée, éventuellement participer à un bal, mais la souveraine rentrera toujours dormir au Petit Trianon. Comme le nouveau jardin n'a pas de mur, mais qu'il faut quand même assurer sa protection, il sera entouré d'un large fossé, curieusement appelé le « ha-ha », expression employée par le prince de Ligne, ami de Marie-Antoinette et lui-même grand amateur de jardin. C'est une interjection anglaise, désignant une tranchée qu'on ne peut pas voir de loin et qui, lorsqu'on la découvre, provoque la surprise et l'on s'écrie « Ah ah !». Les travaux commencent par le creusement du lac avec un double problème. Il faut évacuer la terre puisque, contrairement au jardin anglais, elle ne sera pas réutilisée pour en faire une colline. Il faut aussi s'approvisionner en eau, le bassin du trèfle n'étant pas suffisant. On fait appel à la fameuse machine de Marly et on fait créer de nouvelles canalisations. La disposition des bâtiments autour du lac est elle-même très élaborée. Le cœur du hameau, qu'on appelle le domaine de la reine, comporte trois bâtiments. La maison de la reine, un boudoir et un réchauffoir, un bâtiment qui est en fait une immense cuisine parfaitement aménagée, ainsi qu'un potager. Ce domaine est isolé du reste du village, d'un côté par la rivière qui sort du lac et de l'autre par un petit ruisseau. C'est évidemment symbolique, il faudra quand même construire deux ponts pour y accéder. Le reste des bâtiments est disposé de part et d'autre. D'un côté, le moulin, de l'autre, la tour et sa pêcherie, les deux laiteries, celle dite de préparation et celle dite de propreté, la grange, la maison du garde, la volière, le poulailler et le colombier. Si toutes les maisons se ressemblent à l'extérieur avec leur toit de chaume savamment délabré, leurs intérieurs sont très différents, selon qu'elles sont destinées aux paysans qui travaillent et vivent au village ou à la reine et à ses invités. Pour ces bâtiments-là, les intérieurs sont magnifiques. C'est vrai pour la maison de la reine, la seule disposant d'un étage. Elle consiste en deux bâtiments reliés par une pergola, disposant au rez-de-chaussée d'une magnifique salle à manger dallée de pierre et d'une grande salle de billard. À l'étage auquel on accède par un escalier en colimaçon, on trouve une salle de jeu de style chinois, et surtout un splendide salon doté de 6 fenêtres, 3 donnant sur le lac et 3 sur le jardin. Les vitres en verre de bohème, les tentures murales et le superbe mobilier donnent plutôt l'impression d'être dans un bel hôtel parisien que dans une maison de campagne. Il y a aussi une petite chambre pour Marie-Antoinette et 3 petits cabinets dont l'un abrite une bibliothèque. Le boudoir, à 2 pas de la maison de la reine, est la plus petite maison du hameau. Il n'est composé que d'une pièce, mais quel raffinement! Des boiseries, un très beau parquet, une cheminée de marbre blanc surmontée d'un grand miroir permettent à la propriétaire de s'isoler en compagnie d'une personne de son choix. On dit que ce sera très souvent le cas de Fersen, son ami de cœur. Le premier édifice construit au bord du lac est la tour de Marlborough. Elle est posée sur un rocher artificiel. Son nom, insolite, est lié à une célèbre chanson très à la mode. Elle compte les malheurs du général anglais Marlborough au temps de Louis XIV. Si Marie-Antoinette a choisi ce nom, c'est parce que la nourrice du petit dauphin, surnommée Madame Poitrine, la chantait souvent pour bercer le royal enfant. En l'entendant, Louis XVI et la reine voulurent l'apprendre et la chanter. Marlborough s'en va en guerre sera apprise et chantée par des générations d'enfants. Un escalier circulaire conduit au sommet de la tour où un balcon permet une vue d'ensemble sur tout le domaine. Louis XVI aime beaucoup cet endroit. Il y conduit volontiers le petit dauphin pour lui montrer au loin les toits du grand château de Versailles. Est-ce l'évocation d'un phare ou simplement une vigie? Peu importe, c'est une jolie construction en avancée sur le lac. Son rez-de-chaussée se prolonge par une pêcherie destinée à abriter les barques qui permettent de naviguer. Il y a aussi des filets de pêche car très vite, le lac recevra de nombreux poissons. Un couloir relie la pêcherie à une maison appelée « laiterie de propreté ». Son intérieur est encore une pièce de château, cette fois décorée uniquement de marbre blanc comme une ode à ce qu'on va venir y déguster. La reine raffole de l'étage. Un de ses mets préférés est le fromage à la glace. Elle aime aussi les fraises à la crème. Sur les consoles et la table de marbre blanc, une porcelaine spécialement fabriquée par la manufacture de Sèvres recueille toutes ses préparations à base de lait destinées aux amis de Marie-Antoinette. Mais il y a, bien entendu, une autre laiterie située à deux pas dans une autre maison, celle dite de préparation. On y confectionne les fromages, les crèmes, les glaces et le beurre destinés à la table du petit Trianon. Jamais les invités n'y viennent, pas plus qu'ils ne s'aventureraient dans une cuisine. La vaste grange accueille aussi les invités quand elle est transformée en salle de bal. Le décor intérieur est achevé peu de temps avant la Révolution, elle servira donc très peu. Toutes les autres maisons, dites de service, sont habitées par des gens qui travaillent au hameau, notamment le garde, personnage important. Il assure la surveillance des lieux par des patrouilles régulières dans les douves. Mais il n'y a pas que les maisons. Le hameau se doit d'être aussi le royaume des fleurs et des fruits. On y plante des fraisiers, des framboisiers, des groseilliers, des cerisiers et des abricotiers. Les fleurs sont placées dans des pots de faïence blanche marqués au chiffre bleu de la reine. L'architecte Richard Mick les a commandées en Lorraine. Il y en a 1232. Ils garnissent toutes les maisons, toutes les marches d'escalier et toutes les fenêtres du hameau, créant une harmonieuse féerie florale à travers tout le village. Toutes ces maisons destinées à la reine et à ses invités côtoyant celles destinées au personnel font de cet ensemble ce que Jérémy Benoît, conservateur du domaine de Trianon, appelle un château éclaté. Cette jolie formule montre bien que si l'on s'amuse dans un village campagnard, il n'est pas question de renoncer au luxe et au raffinement auquel on est habitué. Aucun village campagnard ne saurait se priver d'animaux. Pour le hameau, il faut donc une véritable ferme avec un vrai fermier s'occupant des vaches dont le lait fournira la laiterie, des chèvres, un bouc, des volailles en tout genre. Richard Mick va donc construire une superbe ferme bien à l'écart du centre du hameau, afin de ne pas gêner les élégants visiteurs de Trianon par des effluves animales trop agressives. Le fermier arrive avec sa famille en 1785. Précédemment, il dirigeait la laiterie du duc de Choiseul. Il s'appelle Vally Bussard. Il est suisse, originaire de la vallée de Gruyère, et les vaches qui brouteront aux alentours du hameau viendront de la région de Fribourg. Les chèvres et le bouc à quatre cornes viendront aussi de Suisse. Le bouc n'est pas seulement destiné à la reproduction. Il doit aussi pouvoir être attelé au charmant landau du dauphin pour le promener dans les allées du parc. L'animal doit donc aussi être docile. Quant aux moutons, il y en aura. On a raconté beaucoup de bêtises à ce sujet. On a dit que la reine ornait leur cou de rubans de soie et les aurait tondus avec des ciseaux d'or. Tout cela est un pur fantasme. Marie-Antoinette n'a jamais tondu le moindre mouton. Néanmoins, puisqu'il n'y a pas de bergerie à la ferme, les moutons viennent de la bergerie du Grand Trianon. Il faut bien préciser que Marie-Antoinette n'a jamais joué à la fermière. Elle voulait seulement que ses enfants appréhendent la vie rurale. En réalité, au hameau se côtoient deux mondes, celui du personnel qui fait fonctionner le domaine et celui de la reine et de ses hôtes qui se livrent à des plaisirs bucoliques, des jeux de jardin comme le croquet, la pêche, la navigation sur le lac ou encore la dégustation de laitage. Ils profitent de tous les agréments de la vie à la campagne en plein cœur de Versailles. Le 27 mars 1785, la reine accouche de son troisième enfant, Louis-Charles, que le roi titre duc de Normandie. Ce deuxième fils est un grand bonheur pour le couple royal. On sait qu'après la mort de son frère aîné, ce petit garçon deviendra le dauphin avant d'être l'infortuné Louis XVII. Mais pour l'instant, tout va bien, ou à peu près. Lorsqu'elle se rend à Paris le 24 mai pour ses relevailles, Marie-Antoinette est affreusement déçue par l'accueil glacial que lui réservent les Parisiens. On est très loin de la joie procurée par la naissance de Marie-Thérèse et du triomphe que lui avait fait Paris après la naissance de son premier fils. Fersen écrit au roi de Suède
« La reine a été reçue très froidement. Il n'y a pas eu une seule exclamation, mais un silence parfait. »
Lorsqu'elle regagne Versailles, elle s'effondre en larmes dans les bras de Louis XVI en demandant à travers ses sanglots
« Que l'aurais-je fait ?»
C'est la première fois que Marie-Antoinette prend conscience de sa terrible impopularité. Néanmoins, sa vie reprend son cours. Elle s'installe à Trianon pour l'été avec ses enfants et le 2 août 1785, elle écrit à son ami le comte Esterhazy
« À la fin de la semaine, nous pourrons habiter le hameau. »
Elle a repris ses activités théâtrales et dans son petit théâtre de Trianon est en train de répéter le Barbier de Séville. Elle y joue le rôle de Rosine, le comte d'Artois, son beau-frère et Figaro et Vaudreuil jouent Almaviva. C'est dans cette atmosphère joyeuse qu'éclate un coup de tonnerre. Madame Campan, première femme de chambre de la reine, vient lui remettre une lettre des joailliers Beumer et Bassange qui la stupéfie. C'est le début de l'affaire du collier. Ce que Marie-Antoinette vient d'apprendre est une histoire rocambolesque. Les deux joailliers avaient réalisé, plusieurs années auparavant, un collier qu'ils considéraient comme leur chef-d'œuvre, orné de 540 diamants et d'une valeur de 1 600 000 livres. Ils l'avaient déjà proposé, vainement, à Louis XV pour Madame du Barry, puis à Louis XVI pour la reine. Celle-ci l'avait refusé en disant
« Nous avons plus besoin de vaisseaux que d'un collier ».
Toujours sans acquéreur pour leur collier, les joailliers proposent 1000 louis à qui leur permettra de le vendre. C'est urgent car ils sont au bord de la faillite. Une aventurière, Madame de la Motte, conseillée par le mage Cagliostro, saute sur l'occasion. Sachant que le cardinal de Rohan est en disgrâce à la cour et qu'il est prêt à tout pour regagner la confiance de la reine, Madame de la Motte lui fait croire que celle-ci a très envie du bijou. Elle lui montre de fausses lettres de Marie-Antoinette pour le conforter dans cette idée. On lui ménage même une entrevue nocturne dans le parc de Versailles avec une fausse Marie-Antoinette qui offre une rose au cardinal en lui disant « Vous pouvez espérer que le passé sera oublié. Il suffit qu'il achète le collier au nom de la reine. » Le cardinal obtempère. Il acquiert le collier à crédit et le remet à un soi-disant officier de la souveraine qui n'est autre que l'amant de Madame de la Motte. Celle-ci récupère le collier et le dessertit pour vendre les diamants à Londres. Le temps passe, le cardinal ne voit toujours pas de modification dans l'attitude de Marie-Antoinette à son égard. Il refuse de continuer la suite de ses paiements au joaillier. Ceux-ci, persuadés que le collier est entre les mains de la reine, lui adresse une requête. C'est cette requête que Madame Campan transmet pendant les répétitions au petit théâtre de Trianon. Marie-Antoinette est atterrée. Elle comprend qu'elle est victime d'une machination, mais elle ignore encore les détails des manigances de Madame de la Motte. Elle est convaincue que le cardinal de Rohan a essayé de la compromettre. Elle fait réaliser un mémoire par les joailliers et informe aussitôt le roi de l'affaire. Mais Louis XVI et Marie-Antoinette vont commettre une faute irréparable. Au lieu de faire une enquête minutieuse sur cette escroquerie, il décide de faire arrêter de façon spectaculaire le cardinal de Rohan dans la Galerie des Glaces le 15 août 1785. Il est emprisonné en attendant d'être jugé par le Parlement. La reine est persuadée que l'affaire est réglée. Elle va, comme prévu, s'adonner à des plaisirs plus simples et savourer les charmes de son hameau, enfin terminé. La société qui l'accompagne alors est de plus en plus restreinte. Sa favorite, Madame de Polignac, nommée gouvernante des enfants de France, qui veille sur les trois petits princes, Vaudreuil, Esterhazy, et surtout Madame Élisabeth, la plus jeune sœur du roi, pour qui elle s'est prise d'une véritable affection. Louis XVI aussi apprécie beaucoup le hameau. Il vient souvent y déjeuner, invité par sa femme. Il joue aux boules, aux croquets et bientôt aux jeux de paume, pour tenter de juguler sa tendance à l'embonpoint. Le hameau est un lieu de résidence estivale. Au printemps suivant, le séjour de la reine à Trianon est gâché par le jugement du Parlement dans l'affaire du collier. Le cardinal de Rohan est acquitté par 26 voix contre 22. Le soir même, il est acclamé à Paris. Furieux, Louis XVI et Marie-Antoinette l'exilent à l'abbaye de la Chaise-Dieu en Auvergne, ce qui fait de lui un martyr. Stefan Zweig résumera remarquablement l'affaire du collier.
La reine était innocente et, pour rendre publique son innocence, elle en appela au Parlement. Le résultat fut qu'on l'a cru coupable.
À cette humiliation s'ajoute que la reine est à ce moment-là au 7e mois d'une grossesse non désirée qui l'épuise. Le 9 juillet 1786, elle accouche d'une petite Sophie qui n'est guère vaillante. Son été à Trianon et au hameau est attristé par la mauvaise santé de son nourrisson et par d'horribles libelles qu'elle découvre jusque sous son oreiller dans sa chambre au petit Trianon. Effondrée, elle répète à Madame Campan
« Je voudrais mourir. Ah, les monstres! Que l'aurais-je fait ?»
L'été suivant, 1787, commence par la mort de sa petite fille le 19 juin à l'âge de 11 mois. La cour est en deuil. Ni bal, ni fête à Trianon, ni au hameau. La reine y profite simplement de sa famille. Aux soucis politiques qui font qu'à l'été 1788, Louis XVI décide de convoquer les États généraux pour mai 1789, s'ajoutent les grandes angoisses du couple royal à propos de la santé de leur fils aîné, qui s'étiole d'une tuberculose osseuse. Il meurt le 4 juin 1789, à l'âge de 8 ans, un mois après l'ouverture des États généraux. Le dernier été de Marie-Antoinette à Trianon et au hameau sera triste. La révolution est en route. La reine est dans les jardins de Trianon lorsque Madame Campan vient la chercher le 5 octobre 1789 pour lui dire que des hordes de Parisiens et de Parisiennes marchent sur Versailles. Ces violentes journées vont contraindre le couple royal et leur famille à quitter Versailles pour Paris. Marie-Antoinette ne sait pas alors qu'elle ne reverra jamais ni le château, ni le petit Trianon, ni le hameau qu'elle avait tant aimé. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Et j'ai aussi une suggestion pour vous. Si vous aimez l'univers aristocratique et poudré de Marie-Antoinette, vous serez sûrement intéressé par un épisode d'un autre podcast Europe 1 Studio consacré à la série Netflix La Chronique des Bridgerton, série Land. Vous y retrouverez les riches costumes, les décors extravagants et les couleurs élégantes qui font le charme de l'Europe de la fin du XVIIIe siècle et du début de l'Empire et de la Régence en Angleterre. Pour le trouver, c'est simple. Cherchez Seriland. Série, S-E-R-I-E, Land, L-A-N-D, en un seul mot, Seriland. Dans votre application de podcast favorite, puis faites défiler la liste des épisodes pour trouver celui qui s'intitule 3615 Monique, La chronique des Bridgerton, Grey's Anatomy et l'univers de Shonda Rhimes, papesse des séries américaines. Je vous laisse découvrir ce podcast maison de grande qualité et de mon côté, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire.
Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. Ressources bibliographiques. Le Trianon de Marie-Antoinette, par Pierre de Nolhac de l'Académie française, édition Calmann-Lévy, 1924. Le Hameau de la Reine, le monde rêvé de Marie-Antoinette, par Jean Descartes, édition Flammarion, 2018.